Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, une famille formidable.
Bonjour à tous. Voilà. J'espère que vous allez bien. Pas beaucoup, hein? C'est bien. Voilà. Je vous propose que nous fassions une lecture. On va en faire deux, précisément. La première. Nous allons étudier ce texte dans le livre des Hébreux. Alors, il va nous conduire, eh bien, à compulser notre Bible dans bien des endroits. Alors, j'ai dit Hébreux, chapitre 11, verset 7. Voilà. Le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et je prendrai simplement cette partie où nous est parlé de Noé qui a construit une arche pour sauver sa famille. Et c'est intéressant parce que nous avons l'occasion dans la vie de construire tant de choses. Mais nous voyons que Noé a été interpellé surnaturellement, divinement par Dieu pour construire ce grand bateau, cette arche, comme on sait les faire aussi à Saint-Nazaire, pour sauver sa famille. Et j'aimerais justement, eh bien, m'arrêter pendant le temps qui nous est imparti sur la construction de la famille. Alors vous savez que j'avais préparé un autre message pour aujourd'hui. Et puis nous sommes rentrés cette nuit d'un petit séjour dans la Sarthe. Et véritablement, au dernier moment, le Seigneur m'a dit, « Bien, écoute, ton message que tu avais préparé, ce sera pour une autre fois. Tu vas parler sur un autre sujet. » Alors, quand c'est comme ça, moi, je discute pas avec le Seigneur. C'est vrai que je reviens tout frais de quelque chose que nous avons vécu pendant plusieurs jours, là. Mais peut-être qu'il est bon que l'Église aussi entende certaines choses en ce qui concerne la construction de la famille, de nos familles. Comment construire avec Dieu? Alors, à ceci, j'ajouterai cette autre parole que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu maintenant, au chapitre 7, et ça c'est quelque chose que vous connaissez bien, mais je vais lire l'aspect positif de cette parabole, Matthieu, chapitre 7, verset 24, où il est dit ceci, et je rappelle à votre mémoire, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Nous connaissons bien cela. Jésus nous dit, voilà un homme sage. Voilà un homme prudent, dans d'autres traductions. Parce que, dans l'existence, quoi qu'il en soit, il y a parfois, non pas seulement quelques ondées, quelques averses, mais des précipitations violentes, des tourmentes. Il est parlé de la pluie qui tombe, des torrents qui sont venus, des vents qui soufflent, mais cette maison est restée debout. Parce que cet homme a écouté les paroles. Et il a su travailler pour fonder sur le roc, pour fonder sur du solide, pour fonder sur la parole de Dieu, sur la personne même de Jésus. Alors, nous allons aller à la découverte de ce que Jésus nous enseigne, de ce que Noé a fait, et il a sauvé sa famille. Il a sauvé sa famille parce qu'il a su comprendre ce que Dieu lui demandait, ce qu'il avait à faire, ce qu'il fallait faire. Et nous allons donc, en introduction, mettre tout de suite devant nous, après nous verrons autre chose, nous allons parler donc de la famille chrétienne, mais ça peut se décliner naturellement pour toutes les familles de la terre. Toutes les familles que nous connaissons, celles que nous ignorons. Et nous allons parler de deux périls, de dangers, de menaces, qui ne sont pas forcément très évidentes au départ, mais qui peuvent le devenir. Et à ce titre, nous allons ouvrir le livre des Éphésiens. Et nous allons donc lire ce passage, chapitre 6, de 1 à 4. Chapitre 6, de 1 à 4, Éphésiens, enfants. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il y a la part de ceux qui sont les nôtres, nos enfants, et il y a la part de ceux qui ont la responsabilité de la famille, les parents. Vous remarquerez avec moi qu'il est bien dit « selon le Seigneur ». Alors je sais qu'il y a toutes sortes de techniques, toutes sortes de théories, mais il me semble qu'on n'apprend pas à vivre la famille d'une manière livresque. Ça ne s'apprend pas dans un livre. Il peut y avoir des bons conseils, j'en conviens. Alors, ces deux écueils, ces deux dangers, c'est le premier, quand il n'y a plus ou pas ou aucune règle pour l'enfant. Ce qui amène à l'anarchie et au désordre. Ça, c'est un aspect des choses. On pourrait dire le laxisme, le laisser-faire, le laisser tout faire, la liberté qui se déclinerait sous toutes ses formes, ça c'est le premier danger. Et il y a un danger, un autre danger qui est le contraire de ce que nous avons dit, c'est quand il y a un excès de règles qui amène à ce moment-là à l'asphyxie, à la fois de la famille, de la personnalité de l'enfant, et qui a un effet tout aussi désastreux que ce que nous avons dit premièrement. Je reviens, il est dit, recommandez aux enfants d'obéir. Ça, c'est incontournable. L'obéissance, obéissez à vos parents, vous remarquerez, c'est au pluriel, hein. C'est papa et maman. Selon le Seigneur, en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne les pères ou l'autorité parentale, il nous est dit « selon le Seigneur ». Donc il s'agit d'une juste interprétation. Je vous dirais qu'on ne sait pas faire naturellement. Et nous avons besoin d'apprendre « selon le Seigneur ». Dans une connaissance qui ne s'arrête pas à la lettre, mais qui va au-delà, c'est-à-dire l'esprit. Une compréhension et une application selon l'esprit, pour éviter les deux écueils, aucune règle ou excès de règles. Alors la règle royale, si je me permets de l'ajouter, eh bien, c'est la règle de l'amour. Mais qu'est-ce que veut dire l'amour? Parce qu'on peut faire les choses avec aucune règle en disant « j'aime », et on peut mettre un excès de règles en disant « j'aime aussi, j'aime tout autant ». Donc, il est bien compris qu'il s'agit d'interpréter comme Dieu nous conduit, selon ta parole, selon ce qu'il dit, selon ce qu'il te demande, nous, de faire les choses. Parce que l'amour, c'est finalement ce qui réunit les deux. Et ce matin, croyez bien que je ne veux pas faire de moralisme, et il n'y aura aucun jugement dans ce que je vais dire. Nous sommes parents nous-mêmes, grands-parents, pas encore arrière-grands-parents. Ça viendra peut-être, si Dieu nous prête vie. Mais toujours est-il que l'expérience nous a montré certaines choses. Et nous n'avons pas, et nous ne sommes pas seulement impliqués à élever nos propres enfants, mais aussi nous sommes appelés, en tant que ministère pastoral, eh bien, aussi à enseigner les enfants des autres. Parce que l'amour, c'est allier la tendresse et la fermeté. Un cœur tendre avec un esprit ferme. Vous connaissez, c'est Jésus qui l'a dit. Et tout cela, ça nous amène à un mot fondamental, essentiel, selon le Seigneur, c'est le mot équilibre. Et dans un monde de déséquilibre, dans un monde de perturbation, dans un monde de dépression, dans un monde de cyclone, on pourrait peut-être ajouter cela, et particulièrement le grand défi de la famille, c'est justement de ne plus tenir l'équilibre. On le voit autour de nous, et c'est important. L'équilibre significatif du rôle des enfants, mais du rôle des parents, du père et de la mère. Alors, lorsque nous lisons ces choses, en les instruisant selon le Seigneur, que je comprenne bien, finalement, encore une fois de plus, je me permets d'insister, ce que le Seigneur veut me dire en tant que responsable parent, et non selon la lettre, mais dans l'esprit, parce que c'est l'esprit qui fait vivre. J'invente rien, c'est Paul qui le dit, vous savez ce qu'il dit. La lettre tue et l'esprit vivifie. J'aimerais maintenant aller un peu plus loin, ceci posé, ceci dit, c'est l'éducation des petits. Avant qu'ils deviennent grands, on passe par là, ça fait partie de la règle. L'éducation des petits pour en faire des hommes, parce que vous en conviendrez, on n'a pas des enfants pour nous-mêmes. Enfin, moi, je ne sais pas, c'est ma conception. On se donne 20 ans, 30 ans de notre vie, et toujours, parce que même quand ils sont grands, c'est toujours nos enfants. Et il y a des choses qui nous plaisent, et il y a des choses qui nous déplaisent. Alors, attention de ne pas vivre avec nos humeurs, et avec nos états d'âme. Parce qu'il y a des choses qui vont nous plaire chez nos enfants, il y aura des choses qui vont nous déplaire. Je tiens quand même à le signer. Alors, on commence par les petits. Et pour en faire des hommes, il me semble que les principes que je vais donner, vous me direz, ils ne sont pas bibliques. Non, ils sont naturels et humains. Mais ça commence par là. Ils sont élémentaires mais importants. Je dirais que l'enfant prospère s'il a une vie bien réglée dans le foyer. Une vie régulière. Une vie stable. Avec la présence nécessaire des deux parents, alors aujourd'hui on cherche, dans notre société monoparentale, où les choses s'accentuent de plus en plus, compte tenu des phénomènes sociétals de société, on s'aperçoit que ça c'est important. Dans une nourriture équilibrée, une nourriture physique, une nourriture équilibrée, et à des heures fixes, où on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Dans un sommeil qui est donné à l'enfant et dans une atmosphère de paix au foyer. Et ça, c'est notre responsabilité. Nous sommes des enfants de paix. Vivez en paix avec tous autant que cela vous est possible. Alors, il y a bien des choses qui nous sont possibles, naturellement. Et je crois que déjà ça commence comme ça, et j'ai voulu commencer comme ça parce qu'avant de lui parler du Seigneur, de l'envoyer dans les écoles du dimanche club d'enfants, etc., etc., ça commence déjà tout petit. Et vous savez qu'un enfant, c'est pas que... N'entreprenez pas de vouloir maintenant élever un enfant quand il arrive à 16 ou 17 ans, parce que c'est fini. C'est tout petit que ça se passe. Alors voilà, j'ai dit cela. Je voudrais aborder maintenant avec la parole de Dieu, l'enseignement selon le Seigneur, l'entente des parents qui est primordiale. Quand on s'est unis, l'un et l'autre, on était bien d'accord. On était d'accord pour s'entendre. On était d'accord pour s'aimer. Et s'aimer avant tout. Pour recevoir ensuite ce don de Dieu qu'est l'enfant ou les enfants. Alors, il faut que ça continue. Et je dirais que ça devrait encore être encore beaucoup plus fort que les premiers jours. Je rappelle qu'être amoureux, c'est beau, hein ? Être amoureux relève du sentiment et aimer relève de la volonté. Je veux encore t'aimer.
Amen.
Merci. L'entente des parents est primordiale. Et nous allons ouvrir dans Matthieu chapitre 18, verset 19, ce passage. Alors, c'est des lieux communs que je suis en train de vous rappeler. Vous allez me dire, bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a beaucoup de choses nouvelles dans la Bible, à renouveler en tous les cas à travers la parole, et peut-être à renouveler dans notre propre vie, dans notre propre famille, dans notre propre couple, dans notre propre foyer. Matthieu 18, verset 19. Jésus dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je retiens ceci, si deux d'entre vous s'accordent, il s'agit de s'accorder, je dirais même à la limite devant les pluies, devant les torrents et devant les vents qui soufflent, de s'encorder, pour que nous soyons bien liés l'un et l'autre. Je parle des parents, hein. De s'accorder. Et je pense qu'il y a quelque chose qui parle fort dans les foyers, dans les familles, c'est le témoignage silencieux. Assez paradoxal. C'est le témoignage silencieux, constant de vie parentale, dans une démonstration de tendresse et d'affection l'un pour l'autre. Papa et maman se font des bisous. Vous comprenez ça ? Oui, ils se font des bisous. Alors je ne vous choque pas, j'espère. Parce que ça, c'est la vie normale. Et on ne va pas tomber dans un puritanisme et toutes sortes de tabous. C'est normal, c'est la vie. Et vous avez des petites têtes blondes ou brunes avec des yeux et des oreilles et qui disent « Ah, ça les réconforte, papa et maman s'aiment. » Et c'est ce qu'ils ont besoin, hein, nos enfants. Hein. Non pas de voir hein, la belle porcelaine de Limoges qui... C'est dommage, hein. Alors, si vous voulez l'envoyer, vous me l'envoyez à moi, mais... Non, c'est un petit clin d'œil que je fais, hein. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Attention au désaccord entre parents, car ce que nous enseignons à nos enfants et notre conduite d'adulte, parce que nous sommes des grands, hein. Oui, nous sommes des géants même, hein. Petit bout de chou comme ça, hein. Oh là là, c'est énorme, un homme. Eh bien, ça peut déclencher chez l'enfant une insensibilité aux règles qu'on leur demande de respecter. On leur dit, vous respectez ça, mais nous, on les respecte pas. Alors là, il y a quand même un désaccord, il y a quand même quelque chose qui va pas. On va exiger des choses que nous, nous ne faisons pas, même entre adultes. Donc, c'est une inconséquence. Instruisez-les en les corrigeant selon le Seigneur. Mais vous savez aussi bien que moi, mes frères et sœurs, que l'école que nous appliquons à nos enfants, notre Père Céleste qui est dans le ciel, nous met aussi, nous parents, à l'école. Hein. Et ça durera toute la vie. Hein. Il nous met aussi à l'école. Alors c'est dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Toujours dans l'entente des parents, importante, c'est l'effet de la prière et la puissance de l'exemple. Ce sera meilleur et mieux que toute autre pédagogie. Que les parents n'hésitent pas à prier régulièrement ensemble. Nous avons passé deux jours avec une équipe assez nombreuse de parents et nous avons eu des temps de prière Et nous avons entendu dans les prières de belles choses. Des parents parfois en détresse, des parents dans désarroi. Et entre autres prières que j'ai pu remarquer, Seigneur, donne-moi avec mon mari ou avec mon épouse de pouvoir prier ensemble, de trouver un peu de temps tous les jours pour prier ensemble. Et vous savez que ça change la vie, ça. Hein, ça change tout. Et quand on a pris cette habitude-là, on ne peut plus s'en passer. Ouais. On ne peut plus s'en passer parce que ça devient vital. Prier ensemble. Si deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque, hein, on l'a lu tout à l'heure. Hein. Alors, je pense que, mes frères et mes sœurs, vous voulez réussir selon le Seigneur, dans l'Esprit du Seigneur, priez donc et commencez donc à prier ensemble. On prie pour une foule de choses, on prie pour le salut du monde, on prie pour l'Église, on prie pour nos malades, on prie ceci et cela, mais priez donc pour votre couple. Priez donc pour vos enfants. Priez donc pour que Dieu vous donne la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée simplement et sans reproche. Et si nous pensons que nous avons la sagesse, eh bien c'est que nous ne l'avons pas. Parce que nous ne la demandons pas et nous pensons que nous n'avons pas besoin. Eh bien, nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur tous les jours pour dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour élever mes enfants. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui vont changer. Je dis que c'est surnaturel et miraculeux. Et c'est extraordinaire et c'est formidable. Merci, Seigneur. Et c'est une bonne façon d'anticiper les problèmes à venir. Souvent, nous prions pour les choses qui ont été faites, les bêtises et les sottises qui ont été faites. Mais c'est non seulement pour la réparation de ces choses qui appartiennent au passé récent, mais il faut prier également pour que nous puissions également anticiper sur ce qui pourrait arriver. Parce que nous, on ne sait pas tout. Mais Seigneur, c'est déjà ce qui va se passer. Et si on prie, Seigneur, donne-moi la grâce, révèle-moi, aide-moi à comprendre peut-être ce qui va, dans quelle direction mon fils ou ma fille va aller. Alors, je vais anticiper. Et parce que j'ai anticipé, nous avons anticipé ensemble. Alors, à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et quelque part, c'est Dieu qui va avoir la maîtrise de tout. Et il va nous donner aussi le pilotage avant que les choses arrivent. Et on évitera bien des problèmes. On évitera bien des pleurs, bien des chagrins, mes frères et sœurs. Parce que Dieu inspire la sagesse et le savoir-faire. Merci, Seigneur. Hey. C'est ça le côté pratique des choses. Autre point de l'entente des parents, c'est lorsqu'il y a divergence, et ça peut arriver. Vous savez, il faut toujours être très vigilant avec un couple qui vous dit « Moi, j'ai jamais de problème, j'ai jamais de difficulté, on n'a jamais la voix qui s'élève plus haut que l'autre. Hein. » Non, non. Il y a parfois des divergences. Des divergences de vues. Des divergences de vue en matière d'éducation de mes enfants. Parce que si Dieu a donné un homme et une femme, donc un père et une mère, c'est que nous avons deux psychologies différentes. Oui. Deux manières de voir les choses. Mais ça ne doit pas être deux manières de position, ça doit être deux manières de relation et de communion. Parce que l'enfant, il a besoin des deux. Des deux. Les contestations d'abord, mes frères et sœurs, ne doivent jamais, au grand jamais, être portées devant l'enfant. Si vous avez envie de vous fâcher, de vous mettre en colère, de vous chamailler, allez dans votre chambre et ça ne se passe pas devant le regard et les oreilles des enfants. Ça, c'est une question aussi de bon sens. Parce que si vous voulez que vos enfants deviennent comme vous plus tard, eh bien, ils vont le faire. Ils auront toujours vu leurs parents se chamailler, eh bien, ils se chamailleront aussi. Parce qu'ils n'auront pas d'autre chose. Ils prendront ça comme quelque chose, une normalité de la vie. Alors, il ne faut pas que ça se passe devant les enfants. Jamais porté devant les enfants, au risque de voir l'enfant, celui-ci, dresser ses parents l'un contre l'autre. Parce que lui, il va... Eh, ils sont pas... Ça cogite, hein, dans la tête, hein. Les petites... Et ils vont se dire, « Ah tiens, ils se chamaillent tous les deux, ben moi je vais mettre mon grain de sel au milieu. » Et s'il arrive à mettre l'un contre l'autre, etc., il ne va pas se gêner pour satisfaire ses caprices. Hein. Parce que c'est ça le but, hein. Lui, papa et maman, bon, mais il va y mettre son grain de sel. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le corps de Christ qui est une famille. Et on travaille ensemble pour qu'il y ait la paix et l'unité. Eh bien, cette paix et cette unité de l'Église doit commencer par le foyer. C'est une règle essentielle, l'unité. Unie. Autre aspect des choses, c'est que les parents ne doivent jamais prendre à témoin ou à jugement un enfant. Tu vois ton père, comment il se comporte? Tu vois ta mère, comment elle se comporte? Et d'en faire un témoin, d'en faire même quelque part, il y a un arbitre. Ça, c'est désastreux. Parce que lui ne sera pas jugé. Et on va développer en lui un esprit de jugement, mais d'injustice quelque part. Et ça va être très mauvais. On n'a pas à porter devant un enfant ou nos enfants les défaillances de l'un ou de l'autre. Et c'est vrai que nous sommes loin d'être parfaits. Hein. Je voudrais quand même peut-être vous rassurer et vous dire maintenant, il est temps, qu'il n'y a pas de parents parfaits. Nous sommes perfectibles en la matière, mais néanmoins, nous aspirons à ce que le Seigneur vienne nous aider dans cette tâche. Parce que ce n'est pas facile. Franchement, ce n'est pas facile. Et puis, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous, parents, nous devons apprendre à gérer nos fatigues. Vous savez, quelquefois, les gifles qui volent comme ça parce que on est excédé par les soucis de la vie, par quelquefois les brimades que l'on a pu avoir dans la journée, les vexations, toutes sortes de choses. Nous avons besoin d'apprendre à gérer nos fatigues. Nous avons besoin d'apprendre à gérer nos états d'âme. Et des états d'âme, on en a. Hein. C'est normal, c'est très humain. Et nos humeurs. Alors, parce que je suis de mauvaise humeur, c'est tout le monde qui va en subir les conséquences. Eh bien, ça, c'est injuste. Ou mieux que je me renferme à la cave ou au grenier et puis que je passe ma colère ou que je passe ma crise. Devant Dieu, c'est lui qui va traiter parce que moi, je me tourne vers mon père à ce moment-là. Et c'est lui qui a droit, justement, de me dire ce que je dois faire. Mais pas ceux qui sont sous ma responsabilité ou qui sont là, mes enfants ou les uns et les autres. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Nos fatigues, et nous sommes dans un monde fatigant. Un monde d'épuisement, des états d'âme, des humeurs. Savoir donner du repos et de la réflexion dans cette grande aventure de la famille, avant d'agir ou de décider. Et méfions-nous de nos réflexes épidermiques ou de nos agacements. Il y a bien des choses qui nous agacent. Mais soyons justes. On n'a pas à en faire subir les autres. On n'a pas à faire preuve d'autoritarisme non plus. À quelque niveau que ce soit, parce que nous avons un pouvoir, et ça c'est vrai à tous les niveaux, que ce soit les chefs d'État, ou que ce soit les parents, ou que ce soit même un pasteur, il n'a pas à montrer ses états d'âme à l'Église. Et donc, l'Église n'a pas à subir cela. Je dois régler mon problème moi-même. Je n'ai pas à passer mes humeurs sur les uns et sur les autres. Et quelquefois, la famille est le théâtre de toutes sortes de choses. J'en arrive au rôle du père maintenant, qui est un rôle clé, important, béni de Dieu. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Vous savez à qui ça s'adresse. Une belle parole, hein. Alors pour le rôle du père, nous allons voir dans Proverbes, chapitre 17, verset 6. Proverbe, chapitre 17, verset 6. Alors, c'est la deuxième partie qui nous intéresse. Hein. Les enfants, alors je lis la première quand même, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et la suite. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Moi, je trouve que c'est une parole magnifique. Hein. La gloire. Il s'agit de gloire, pas moins de gloire et de dignité dans le rôle que Dieu nous a assigné d'être père. Alors le père a la responsabilité d'exercer la discipline. C'est la fonction, c'est le rôle que Dieu lui a échu. Et la maman collabore. On n'est pas seul, on est deux. Pas l'oublier. Le père qui abdique son autorité. Et aujourd'hui, hélas, c'est une des causes de séparation dans les couples. Je n'ai pas, je l'ai souvent entendu, je n'ai pas 2, 3, 4 enfants. J'ai 5 enfants parce que mon mari, c'est un adolescent. Un éternel adolescent. Je lui demande quelquefois de faire quelque chose. Il laisse faire. C'est un drame, hein ? Alors on est passé dans notre société du tout au rien du tout. Dans le temps, je peux vous dire que d'après ce que nous pouvons connaître, peut-être même de notre histoire, enfin pas la mienne en tous les cas, mais l'autorité était pharaon, hein, assis sur son trône. Et puis maintenant, ben, y a un absentéisme total et complet. Alors, c'est vrai dans un sens, quand le père abdique son autorité, ou alors quand c'est la mère qui usurpe celle de son mari. Il y a les deux. C'est-à-dire que c'est du matriarcat. Elle fait tout. Elle entreprend tout. Et le petit bonhomme, enfin je parle du mari, hein. Il suit derrière, il peut être grand, mais bon, vous comprenez. Et cela, je crois que dans un sens ou dans un autre, ça porte gravement atteinte à l'ordre de l'équilibre familial. Je reviens sur le mot équilibre, mes frères et sœurs. Tant que je serai avec vous, vous m'entendrez parler de ce mot équilibre. Moi, je crois que le plus grand modèle, l'idéal d'équilibre, c'est Jésus. Les excès dans un sens ou dans un autre sont mauvais, pour ne pas dire pernicieux, parce qu'ils sont exploités par l'ennemi. D'une façon ou d'une autre. Il convient d'une entente intelligente et d'une bonne coordination entre l'un et l'autre, entre lui et elle. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 1er, je vais lire 2 ou 3 versets, il est dit ceci, « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Le Seigneur va donner la sagesse au Père, s'il le lui demande. Au verset 10 maintenant. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et que les années de ta vie se multiplieront. Et les années de ta vie se multiplieront. Voilà la bénédiction qui s'attache à écouter les paroles d'un Père sage. Au verset 20, toujours dans ce même chapitre. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Donc on en revient toujours, finalement, à cette instruction. Nous allons passer maintenant, brièvement, à un autre aspect des choses, communiquer la foi. Parce que c'est quand même le but. Hein. On ne fait pas de nos enfants des hommes pour la terre, bien que nous ayons un devoir important à en faire des hommes avec qui soient aptes et capables à gagner leur vie, avoir une situation, et à leur tour, fonder une famille, donner l'exemple à leurs enfants pour qu'à leur tour, ils deviennent aussi eux-mêmes eh bien, des pères et des mères, et ainsi de suite. Je bénirai jusqu'à 1000 générations. Alors, ça ne s'arrête pas comme ça, hein ? Formidable. C'est formidable. Communiquer la foi. Dans 2 Timothée, alors on va revenir dans ce passage, 2 Timothée, 2 Timothée, verset 5, chapitre 1er, verset 5. Écoutez, c'est une belle parole. Constatée par un homme qui n'avait pas de famille, c'est Paul. Il n'avait pas de famille, Paul, visiblement. Et il écrira ceci en s'adressant à Timothée. Et il dira, garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita. D'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Communiquer la foi. Communiquer la foi par l'exemple. Alors la question qui se pose maintenant devant cette interpellation, devons-nous, parents, nous faire du forcing pour que nos enfants se convertissent? Je ne réponds pas, hein. Chacun répondra à sa conscience. Mais doit-on faire du forcing? C'est sûr que nous désirons que nos enfants partagent l'éternité avec nous. C'est sûr que nous désirons et que nous voulons qu'ils puissent, eh bien, faire l'expérience de la grâce de Jésus-Christ et qu'ils reçoivent aussi la bénédiction qui était celle de nos prédécesseurs, celle de nos parents, de nos grands-parents peut-être, et qu'ils reçoivent aussi cette bénédiction que nous avons. Ils l'ont vécu dans leur enfance, cette bénédiction. Enfin, je parle déjà pour ceux qui ont un petit peu de vie. Forcing, obligation. Prendre leur place dans des choix personnels de nos enfants. Oui, quand ils sont petits, c'est certain. Hein. C'est normal. Prendre leur place pour des choix spirituels. Vous savez, hein, l'expérience nous a montré que quelquefois, on a souvent donné un coup de pouce à la place du Seigneur, baptisé, et on s'aperçoit que on aurait mieux fait de rester tranquille. Je parle du pastorat, hein. On aurait mieux fait de rester tranquille. Parce qu'on les a mis sous un engagement qu'ils ont pris, certainement sincèrement et spontanément, mais ils n'en ont rien fait pour l'instant. Maintenant, je sais une chose. J'ai une intime conviction que ceux qui ont été baptisés, ils perdent leur temps en batifolant, en papillonnant de droite et de gauche. Et moi, je voudrais encourager les parents qui sont comme le père sur la tour pour attendre la venue le retour du fils et de la fille prodigue. Eh bien, vous ne perdez pas votre temps en continuant à prier pour eux. Non, non. Moi, c'est cette conviction que j'ai dans mon cœur. Je vous ai dit, hein, il y a des choses qui nous plaisent et des choses qui ne nous déplaisent pas chez nos enfants. Hein. Et on n'a pas fini d'en voir. Mais c'est comme ça. Alors attention au forcing. De se servir de la parole de Dieu, pourtant, comme une arme de pression ou de dissuasion. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas faite pour ça. C'est une parole de grâce, c'est une parole d'amour. Hein. Mais ce n'est pas une grosse Bertha, excusez-moi. Hein. Vous savez ce que c'est la grosse Bertha? Non, je vous l'expliquerai après. Pour vous le dire maintenant. Mais c'est la guerre, oui, c'est ça. C'est la guerre. Alors faisons attention dans l'utilisation finalement de la parole. Selon le Seigneur, dans l'esprit du Seigneur, selon l'inspiration du Seigneur, oui. Mais soyons prudents. Je voudrais maintenant aborder brièvement quelques faits de la société dans laquelle nous vivons et qui amènent les parents à démissionner. Deutéronome chapitre 32. Ça va? Oui? Il n'y a qu'une seule personne qui répond, mais c'est bien. Moi, ça me suffit. Je considère ça comme la majorité, alors c'est bien. 32, Deutéronome 32. Et je vais lire la deuxième partie de ce verset 10. Quand les parents démissionnent, écoutez bien. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Je relis. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il y a un mot qui fait flash, c'est le mot soin. Il en a pris soin. Et je parle de démission parentale. Les parents en crise, parce que ça arrive, quand le couple est en crise, quand l'un et l'autre passent par une crise, et nous allons voir quelques faits qui peuvent mettre les parents en crise et toute une famille en crise. La préoccupation de l'argent dans le foyer. Ah oui, vous allez me dire, ah oui, bon. Je n'avais peut-être pas pensé à ça. C'est un phénomène de notre temps aujourd'hui. Dans notre monde de crédit, de surendettement et toutes sortes de choses. Et vous savez, hein, une des grandes parts du divorce, c'est parce que on s'entend pour un projet et puis après on se désaccorde complètement parce qu'on n'y arrive pas. Je peux vous dire qu'il y en a qui vous attendent. Hein. Ce sont ceux qui vous ont prêté de l'argent. Ils ne vous oublient pas, hein. Ils vous envoient très souvent un petit rappel en disant voilà ceci et cela. Et ça, ça vous met un foyer en l'air. Parce qu'il y a une pression, parce qu'il y a une tension. Vous savez, je voudrais vous dire, hein, je suis peut-être. Mais je voudrais vous dire, hein, vivez heureux avec ce que vous avez. Ah oui, vivez heureux avec ce que vous avez. Vous verrez le contentement, ce que c'est. Le contentement du Seigneur, ne vous manquerez de rien. Manquerez de rien. Le souci de l'argent. La priorité de la réussite professionnelle. Ça s'adresse souvent aux messieurs. Hein. On vous offre une promotion. Alors, avec ça, eh bien, quelquefois, monsieur ne rentre plus parce qu'il fait des heures. Dans le prochain gouvernement, ils vont voter une loi, on va changer les horaires, on va remanier toutes les pendules, on va mettre 25 heures à la journée. 24, c'est pas suffisant. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Oui, oui. Ce souci de vouloir réussir sa vie professionnellement parlant, mais le Seigneur va vous le donner. Et vous savez pourquoi il va vous le donner? Parce que si vous avez bien compris cette parole, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais il va vous donner le reste. Il vous donnera il vous donnera l'argent, il vous donnera la situation, il vous donnera la place, il vous donnera tout ce que vous voulez. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le royaume de Dieu et sa justice, il commence par quoi? Il commence déjà par le foyer. Parce que c'est l'élémentaire de la cellule. Et si cette cellule est détruite, l'église sera détruite. Parce que nous sommes chrétiens, nous appartenons à une église, nous appartenons à une cellule, une famille qui s'appelle la famille de Dieu. Et après, ce sera la société qui va être complètement, excusez-moi l'expression, mais complètement déglinguée. Réussite professionnelle. La suractivité. Vous savez, on est en train de prendre une mauvaise direction. Hein. Mais je ne parle pas de l'extérieur, je parle d'ici. Enfin, ici, pas seulement ici, mais on parle d'une mauvaise direction. Vous savez pourquoi? Au lieu de se fonder sur les choses essentielles dans l'Église, de rester sur les fondamentaux de la vie chrétienne, on est en train de créer toutes sortes d'activités, toutes sortes de clubs, toutes sortes d'occupations. Et l'Église n'est plus l'Église du Seigneur, c'est un club occupationnel. Bientôt, on va faire du gin tonic. Spirituel. Non, mais c'est vrai. On est en train de multiplier les cellules de droite et de gauche, de ceci, de cela, etc., pour occuper les chrétiens. Mais pendant qu'ils sont occupés, ils oublient l'essentiel. Et non seulement ils oublient l'essentiel, mais si vous insistissez les gens dans toutes sortes de réunions, ils vont finir par attraper la réunionite. Grave maladie au demeurant et sans vaccin. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, eh bien, vous aurez une réunion tous les jours, tous les soirs, après votre travail et tout ça. Et la maman ou l'épouse ne verra plus son mari. Et au bout d'un certain temps, on se dit, bah oui, ce couple qu'on le croyait solide, bah, il a complètement disparu de la circulation, il a complètement éclaté. Pourquoi? Parce qu'on l'a complètement pompé dans sa substance, et au lieu d'être à sa vraie place, on lui a donné toutes sortes de choses en lui montrant peut-être la carotte ou un truc comme ça, et finalement on s'est aperçu que ben, quand il n'y a plus de relation entre dans un foyer, ben, ça finit par casser. Et après on pleure, parce que vous savez, hein, faut quand même pas se leurrer, hein. C'est que ce que Dieu nous demande, c'est de construire solide chez nous avant d'aller sauver les âmes à côté. Hein. Vous savez, nous sommes tous des missionnaires, et Dieu ne va pas nous envoyer en Afrique. Hein. Il va nous envoyer dans notre propre foyer, pour faire ce que nous avons à y faire. Attention à la suractivité. On en avait parlé, j'avais fait tout un message là-dessus, sur le sujet. Les climats permanents de tension au sein de la famille, les mésententes parentales, on en a parlé, les couples au bord de la séparation. Alors, il faut chercher les causes à tout ça. Il faut chercher les causes. Et Dieu va nous éclairer, naturellement. Ce que j'ai remarqué, c'est que, et je le partage avec d'autres collègues dans le ministère, c'est qu'aujourd'hui, à la différence peut-être d'hier, quand il y avait des difficultés, des problèmes, le pasteur intervient en SAMU maintenant. Avant, on avait encore le temps de pouvoir parler, de pouvoir mettre les problèmes, de pouvoir prier, de pouvoir... Mais aujourd'hui, on ne dit plus rien. On attend que ça casse. Alors, s'il est encore temps, peut-être, Mais ce sont des interventions d'urgence. S'il est encore possible qu'il y ait quelque chose à faire. Remarquez, vous allez me dire, un pasteur, il fait aussi des services d'inhumation. Ben oui. Non, mais c'est dommage, hein. Excusez-moi, hein. C'est dommage parce que quelquefois, il faudrait mieux en parler, mais on ne veut rien dire parce qu'on a peur d'être jugé. Eh bien, quand il y a des problèmes, on les règle et on les traite. C'est tout. Et ça vaut mieux, hein. Vous savez, c'est précieux d'avoir un mari, une femme et d'avoir des enfants, un foyer. Excusez-moi. Et on va laisser les choses comme ça. Si on veut les laisser comme ça, ça ira. Et c'est le diable qui aura l'avantage. Et moi, je ne veux pas que le diable ait l'avantage. Mais moi, je n'interviens pas tant qu'on ne me demande pas. Et c'est normal. Parce que quand on me demande d'intervenir, je prie. Ça ne se voit pas comme ça. Mais je prie. Et à ce moment-là, il y a toute une stratégie qui est élaborée entre mon Père Céleste, dans la manière dont je dois agir. Parce que moi, je n'ai pas de critères particuliers. Je n'ouvre pas un livre en disant, voilà, il va faire ceci, cela, etc. C'est une conduite de l'esprit. Et vous savez, il y a eu quand même dans notre histoire pastorale des couples qui ont été sauvés. Et des foyers qui ont été sauvés. Et pensez qu'un couple qui a besoin d'être sauvé, c'est aussi sauver les enfants. Et si on ne le fait pas pour nous, on le fait au moins pour les enfants. Les écarts de langage dans le foyer, ça aussi, c'est des choses. Hein. La grossièreté. Quand les parents démissionnent. Il y a les oreilles aussi. Brièvement, les parents protecteurs, parce qu'il y a des parents qui laissent faire tout, mais il y a des parents qui sont super protecteurs. Vous connaissez, hein, papa poule et maman poule, quand c'est une expression. Je crois que nous avons besoin de comprendre une chose, mes frères et sœurs, c'est de favoriser l'affranchissement de l'enfant, et non pas le mettre dans des liens et dans des chaînes. L'affranchissement de l'enfant. On n'enlève pas son enfant, on n'élève pas son enfant pour nous. Il faut bien comprendre. Et il faut le stimuler à franchir les étapes de l'enfance, de l'adolescence, et quand il deviendra un jeune adulte. Il faut l'aider. Parce que ce n'est pas le monde qui va l'aider. Hein. Je peux vous dire qu'ils entendent des choses, ils voient des choses, ils sont confrontés avec des pollutions dont on a du mal, nous maintenant, qui sommes déjà arrivés à un certain âge, à imaginer. Hein. Le milieu. Et il faut les stimuler à devenir des hommes responsables. Il faut également les rassurer dans ses craintes et dans ses peurs, ou dans leurs peurs ou dans leurs craintes. Il faut aussi consentir à les laisser apprendre par l'expérience. Parce que si on veut les protéger de tout, eh bien, on va en faire des gens inadaptés à la société et à prendre des responsabilités, à commencer à prendre un engagement avec le Seigneur. Ouais. Ne pas faire tout à sa place. Mon petit chéri, je vais faire ton lit. Ben, laissez-le faire le lit. Laissez-le lui éplucher les pommes de terre. Et puis tout ce que vous voudrez, ça va lui apprendre quelque chose de pratique. Mais aujourd'hui, on fait tout à la place de nos enfants. Il faut lui inculquer le sens de la responsabilité de ses actes. Le bien, c'est bien, et le mal, c'est mal. Aujourd'hui, on ne sait plus tellement où on en est rendu. Il faut lui apprendre à, il faut lui démontrer que s'il a des droits, il a aussi des droits et des privilèges, il a aussi en contrepartie des devoirs et des obligations dans la maison. Parce que c'est bien les copains et les copines, hein. Mais il y a des choses qui ne passent pas. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de papa et maman. Parce qu'ils sont sous notre toit. Ils sont sous notre responsabilité. On ne parle pas n'importe comment dans la maison. Vous savez, nos enfants, ils ont été confrontés comme les vôtres. Ils ont été à l'école, et c'est surtout le collège qui est pas... C'est vraiment un petit peu là, c'est critique. Hein. Ils apprennent une autre langue. Ouais, ils apprennent une autre langue. Mais une chose que nous avons constatée, c'est que quand, avec leurs copains, ils avaient un langage un petit peu coloré, une chose qui était certaine, c'est que quand ils passaient la porte de la maison, ils savaient, hein, jamais, et vraiment, on peut dire pratiquement jamais, il y a eu un écart de langage. Parce qu'ils savaient qu'ici, c'était comme ça. Et même entre eux, hein, parce qu'ils avaient pouvaient avoir aussi la même langue, mais même entre eux, devant, dans la maison, c'était comme ça, c'est tout. Alors, ce sont des principes, tout ça, hein. Ils ont des obligations dans la famille et ils auront des obligations dans la société. Si on ne les prépare pas, quel citoyen ça va faire? On s'éloigne de la Bible. Non, 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 je ne m'éloigne pas de la Bible. Honore Dieu. C'est ce qu'il nous est dit hein, dans l'Épître de Pierre. Il nous a demandé d'être un bon citoyen dans Romains chapitre 13. À commencer par le respect des autres. S'ils ne se respectent pas, s'ils ne respectent pas eux-mêmes, en tous les cas, il faut qu'ils apprennent à respecter les autres. Le frère ou la sœur, les grands-parents, les parents, et puis même tous ceux qui sont autour. Il faut rendre l'enfant conscient que de tout acte, et parole engage, eh bien, une cause à effet. C'est une sainte crainte de faire le mal. Parce que ce principe, il est réel. Ce que l'on sème, on le moissonnera. Il faut qu'ils le sachent. Parce que s'ils ne le savent pas, ça peut être très ennuyeux pour eux. Avant-dernier point, c'est la communication familiale. Deutéronome, chapitre 6, verset 7. Rappel, verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Et moi, je dis que la maison, c'est un lieu de parole. L'église est un lieu de parole, de la parole de Dieu. Mais la maison, c'est un lieu de parole, où on parle. Et on parle à table. Quelle impositesse et quelle malséance. Dans le temps, on nous a dit « tais-toi et mange ». On dit aujourd'hui « tais-toi parce qu'il y a M. Pernaut à la télévision ». Alors lui, on se le garde pour l'apéritif. Ah oui. Non mais c'est ça. Mais les enfants, ils ont besoin de parler de leur joie, de leur peine, de leur petite vie à l'école avec eux. Et il faut les écouter, les enfants. Il faut les encourager à parler. Alors je sais qu'il y a des pipelettes. C'est au féminin, hein. Enfin. Ah oui. Oui, mais on peut être un garçon et être une pipelette aussi, hein, quand même. Il faut donner du temps de parler et d'écouter. On est tellement pris par toutes sortes d'activités. On dit, ben voilà, on prend le repas en deux temps de mouvement, comme on dit, hein. Et les enfants, ils ont des choses quelquefois sur le cœur. Eh bien, la table, la maison, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu où on parle. Et c'est un lieu où on se parle. Vous savez, c'est quand même beaucoup plus sympathique, hein, quand on est devant un bon repas et qu'on parle. Et on se dit des choses. C'est important, cette communication familiale. C'est important d'avoir des activités ensemble, de partager une complicité avec nos enfants, de partir en vacances, d'avoir des loisirs sains. Parce que le non-dit est destructeur. Ouais. C'est terrible, hein, le non-dit. Hein. Parce que ça ouvre la porte à la suspicion, à l'inquisition, à toutes sortes de supputations. Eh ben, vaut mieux dire les choses. Voilà. Ça dépend comment on les dit, mais on les dit. Et on les dit bien. Ouais. Vous savez ce qu'il va nous rester hein, de cette vie terrestre? Eh bien, ça sera nos enfants. On sera peut-être réduit dans une grande vieillesse à ne plus pouvoir venir à l'église, à ne plus voir nos frères et nos sœurs. C'est possible. Mais écoutez, si on a construit une arche de paix, d'unité, de communication, eh bien, ça sera certainement une joie, une consolation de quitter cette terre pour aller vers le Seigneur, avec une mission qui aura été accomplie. Ouais. Merci Seigneur. Il y a tant de gens qui sont réduits dans les maisons de retraite et qui ne voient jamais plus personne. Terrible ça. Nous, nos meilleurs souvenirs, c'était des moments de vacances. Ouais. Les enfants étaient... C'est formidable. Mais ça, ce sont des choses que nous partageons encore aujourd'hui. Et on continue, et je peux vous dire qu'ils répliquent à la maison, hein, quand ils ont l'occasion. Hein. On va chez papa et chez maman. Non, on va chez nous, même s'ils ont, leur chez eux. Ouais. Il y a des belles choses que Dieu a données, mes frères et sœurs. Et ça vaut la peine de ne pas passer à côté. Et moi, je vous dis ça, vraiment pour vous encourager. Puis je termine l'éducation sous un aspect tout à fait particulier. Je termine avec le dernier Proverbe, chapitre 4, verset 13. Oui, c'est ça. Proverbe 4, 13. Retiens l'instruction, ça s'adresse aux enfants, ne t'en dessaisis pas, ne te laisse pas voler cela, ce que le Seigneur t'a donné. Ce que tu sais, garde-le. Et vous savez pourquoi ? Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est la vie. Elle est ta vie, plus précisément. Le mot qui fait force, c'est le mot retiens, comme beaucoup de choses dans la Bible. Et je crois que nous avons besoin d'avoir une approche de nos enfants qui ne soit pas injuste. Nous devons avoir une attitude qui ne doit pas être une attitude de partialité. Ou si vous aimez mieux, nos enfants, parmi nos enfants, il n'y a pas de chouchou, de favoritisme. Et quand il y a des conflits entre les enfants, nous avons le devoir de vérifier les faits pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et de ne pas faire des injustices, parce que nous avons un petit là capricieux, malicieux, qui en fait voir de toutes les couleurs aux autres, et mais parce que nous l'aimons bien, comme en effet, comment s'appelait Rebecca avec son petit Jacob, eh bien voilà, après on sait comment ça se termine. Donc il faut être juste en tant que parent, et il faut être égal avec tous nos enfants. Et je crois qu'il faut considérer qu'ils vont apprendre aussi par l'expérience de ce que les enfants ne veulent pas apprendre par le conseil que nous leur prodiguons. Quelquefois, ils ont du mal à entendre. On leur dit, attention, ne fais pas ça, il va y avoir ceci et cela. Ils croient que, de toute façon, ils sont plus sages que nous. Et nous, si on ne s'en est pas tiré, ils vont s'en tirer. Alors, il faut les laisser faire. C'est, vous savez, ne touche pas parce que ça brûle. Et tout ce qui est interdit, c'est attirant. Alors, bon, on a fait l'expérience, hein. Et là, je peux vous dire qu'ils mettent la main dessus, ils ne reviennent pas deux fois. Hein. Discipliner sous la colère et la réaction violente est délétère. Les parents doivent respecter leurs enfants et ils ont autant de droits aux formules de politesse que nous nous exigeons d'eux quand ils nous parlent. Dans une des prières que j'ai entendues ces derniers jours, où ce n'était même pas une prière, c'était tout simplement un aveu public, un jour j'ai fait une bêtise, nous dit une maman. J'étais injuste avec mon enfant. Eh bien, Dieu m'a mis à cœur de lui demander pardon. Elle a eu raison. Parce qu'un enfant, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Et si vous demandez à votre enfant certaines choses et que vous ne le faites pas, eh bien, il ne faut pas vous attendre que ça marche bien, quoi qu'il en soit. Nous devons respecter nos enfants. Parce qu'ils font des erreurs, mais nous pouvons en faire aussi. Hein. On n'est pas exempt de faire des erreurs. Un enfant a besoin d'encouragement et de compliments quand il fait le bien. On a souvent eu cette formule, retourner, tu es un bon à rien. Et vous dites ça pendant toute une vie d'enfance à un enfant, et bien vous allez voir un peu comment ça va se passer. Il va se sentir mal aimé, ça va être un frustré, il peut devenir violent et agressif avec les autres, parce qu'il ne se sent pas considéré comme il doit être considéré. Alors quand un enfant fait le bien, il faut lui dire qu'il fait le bien. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vantardise, ce n'est pas lui passer la main dans le dos et tout ça, c'est simplement pour l'encourager à faire le bien. Si leur choix est mauvais à nos enfants, parce que ça leur arrive de faire des choix mauvais, hein, et que ce choix soit suivi de conséquences, n'allez pas intervenir avec des répliques ou une morale sarcastique en disant « je te l'avais bien dit, c'est bien fait pour toi ». Parce que premièrement, il va l'apprendre. Il est en train de l'apprendre puisqu'il a fait une erreur, on l'avait prévenu, il l'a fait quand même. Il s'est brûlé, il s'est fait mal. Et si nous en mettons une couche derrière, et que si c'est dit une fois, ça peut encore aller, mais si c'est dit continuellement, alors à ce moment-là, ça risque d'être compliqué. Et il va y avoir une exploitation de la culpabilité. Vous allez en faire quelqu'un qui va vivre dans la culpabilisation permanente. Or, le Seigneur nous a appris, il nous a appelés à la liberté. Parce qu'il y en a un qui se sert de la culpabilité, c'est le diable. Et quelquefois, on a encore des enfants de Dieu qui sont là continuellement sous la culpabilité, alors que Dieu leur dit, mais relève la tête. Je suis ton sauveur. Je t'ai donné ma grâce à la croix. Et tu marches comme la femme courbée, là. Tu n'arrives pas à te relever. Prenons garde de donner une mesure raisonnable à toute correction physique quand ils sont petits, naturellement. Qu'elle reste juste et proportionnée à la faute. Parce que si véritablement c'est une faute bénigne et que vous le frappez avec le marteau, le défoulement n'est pas de mise. Hein. Les réactions violentes parentales peuvent engendrer la dissimulation chez l'enfant pour cause de peur. Et là, il va vous faire les coups en douce, vous n'en saurez rien. Parce qu'il va vivre dans la frustration et dans la peur. Et là, il va devenir un menteur. Et il fera les choses dans votre dos. Mais ça sera un peu de notre faute. Parce que nous aurons développé chez lui cette réaction. Attention à l'humiliation morale de nos enfants. Ce genre de plaisanterie, tu as un grand nez, tu as de grandes oreilles. Ne pas exploiter les disgrâces physiques. De toute façon, tous nos enfants, pour nous, ils sont beaux. Ce sont les plus beaux d'ailleurs. Mais entre frères et sœurs, je peux vous dire qu'ils ne se font pas de cadeaux. Hein. Avec des surnoms, avec toutes sortes de choses, avec des allusions blessantes, continuelles et publiques, surtout quand c'est fait en public. Et une correction doit rester toujours un événement, pas quelque chose de quotidien. Vous savez, on parle beaucoup dans la société aujourd'hui de ces maltraitances d'enfants. Hein. Alors un enfant, quand il mérite d'être repris, il a besoin d'être repris. Mais quand ça devient une habitude et que ça devient un souffre-douleur, alors à ce moment-là, il vaut mieux aller directement au commissariat de police. Apprendre à différencier, je termine, apprendre à différencier la gravité des fautes, à corriger. Et il y a une règle. Je termine là-dessus. Indulgence et non dramatisation pour les maladresses et les inadvertances. Fermeté quant au péché. On est d'accord, quelquefois on mélange tout. Le pécheur et le péché, on ne sait même plus faire la différence. Indulgence et non dramatisation. Sur le buffet, il y a un beau vase qui appartenait à ma grand-mère. J'ai une histoire, hein, c'est pas grave. Voilà que le gamin, avec un balai ou je ne sais pas quoi, il décroche le vase par terre. Terrible, hein? Ouais. Mais l'enfant, il a cassé le vase. Mais ça aurait pu vous arriver vous-même aussi, en tant que parent. Alors attention à ce que l'on fait, hein? Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas juste, hein? Oui, il est passé par là, le vase, il est cassé, c'est tout. Mais par contre, fermeté quant au péché. C'est-à-dire la désobéissance. Et la désobéissance, je souligne, volontaire. Le mensonge. Ça, ce sont des péchés. L'orgueil. La méchanceté préméditée. Vous entendez par là peut-être la vengeance ? Méchanceté préméditée. L'égoïsme. La jalousie. Oh oh. La rébellion. Ça, ce sont des péchés. Là, nous devons être sévères. Mais parce qu'un enfant, parce que c'est un enfant, et parce qu'il est remuant, et puis parce qu'il y a ceci et cela, je crois qu'il faut faire attention, hein, pas mélanger les genres. Hein, parce que lui, il va s'en souvenir, l'enfant. Quoi qu'il en soit. Hein. Et vous savez, quand il arrive des choses comme ça, des choses qui sont la caractéristique d'un mal profond qui est au fond du cœur de l'enfant, et la Bible est claire par rapport à ça, hein, pourquoi pas en parler à l'enfant? Mais en parler! Attendez, hein, on parle ensemble, c'est pas de l'asséner et puis de lui dire maintenant tu te tais et puis moi c'est moi qui parle. D'en parler avec l'enfant, vous allez me dire c'est une pédagogie. Et pourquoi pas lui demander de prier avec lui, pour l'amener à la repentance. Parce que finalement vous suivez les étapes, il a fait une faute. Vous en parlez avec l'enfant, tu es jaloux, tu es méchant, tu es égoïste, bon ça d'accord, il le sait. Il en a pris conscience, il le sait tout cela. Et de lui dire, eh bien écoute, on va prier ensemble, on va demander au Seigneur qu'il te délivre. C'est quand même mieux que de lui asséner des grandes tapes sur la tête. On va en parler avec le Seigneur. Et dans cette prière, vous allez conduire votre enfant à se repentir de ce péché. Eh bien vous savez, je peux vous dire, et on l'a fait l'expérience, je peux vous dire qu'à chaque fois, Dieu entend ce genre de prière. Et votre enfant, il va apprendre ce que c'est que la jalousie, il n'aura plus envie. Il va apprendre ce que c'est que le mensonge, il n'aura pas envie, parce que c'est pas moi qui l'aurais fait. C'est pas moi le père ou la mère, les parents qui vont le faire, mais c'est le Seigneur par son esprit. Et ça, ça change tout complètement et totalement. Puis une dernière chose, il ne faut pas mélanger les genres. Si un enfant ment, vous lui montrez qu'il a usé du mensonge, mais attendez, hein, il ne faut pas lui mettre une étiquette dans le dos que c'est un menteur. Parce que quand vous lui dites qu'il a menti, vous touchez au péché. Quand vous dites qu'il est un menteur, vous touchez à sa personne. Ah oui. Et ça, c'est toute une sagesse selon Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous aide dans nos responsabilités, dans notre rôle aux uns et aux autres. Et nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité parce que, en effet, nous avons parlé d'école. Nous avons parlé d'enseignement, d'instruction, d'éducation. Mais Seigneur, une chose que je veux mettre en premier ce matin, c'est que moi je suis à ton école, avant tout. Et tu nous as donné aux uns et aux autres la responsabilité, le privilège d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Alors Seigneur, avant de regarder plus bas que moi, c'est-à-dire les petits, eh bien moi je veux regarder vers toi qui est au-dessus de moi, parce que tu es mon supérieur Seigneur. Et toi, tu sais, mieux que je ne saurais. Alors je peux toujours me réconforter en disant « je sais, je connais ceci et cela », même me servir de ta parole. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi, je suis à ton école, Seigneur, pour être ensuite capable d'instruire ceux que tu as placés à l'école parentale. Alors je te demande d'aider mes frères et mes sœurs, d'aider les couples, d'aider les familles, d'aider, Seigneur, les petits-enfants, d'aider les adolescents, d'aider les jeunes adultes, Seigneur. Alors tu fais grâce et tu nous viens en aide, parce que ta parole est là. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée simplement et sans reproche. Alors nous disons, Seigneur, que nous sommes preneurs. Oui, Seigneur, je manque de sagesse. Je manque de tempérance. Je manque de bienveillance. Je manque d'amour. Je manque de patience. Seigneur, tu vas m'aider. Tu vas nous aider, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour la gloire et l'honneur de ton nom, et pour la vie éternelle de nos enfants. Merci Jésus. Amen.